Des vidéos inédites de la fusée Rasset qui a transporté le satellite iranien Nour 2. Les corps des gardiens de la révolution islamique en Iran a diffusé une vidéo sur les derniers préparatifs qui ont procédé le lancement du satellite Nour 2. À bord de son transporteur, la fusée Rasset, qui comporte trois moteurs spacieux. Le lancement de ce deuxième satellite fabriqué par les scientifiques et les experts iraniens depuis la base Chahrud, située dans la province de Semnan à 300 km de Téhéran, a été annoncé le 8 mars dernier. Selon le commandant de la force aérospatiale du CGRI, le général Jafar Obodi, il est destiné à effectuer des missions de reconnaissance et des missions de photographie à une distance de 500 km. Il devrait réaliser un tour autour de la Terre une fois toutes les 80 minutes et devrait durer 3 ans. Il est destiné aux catastrophes naturelles comme les inondations et les séismes. Son prédécesseur Nour 1, lancé en avril 2020, avant d'effectuer 10 miles autour de la Terre, a pu effectuer des photographies de la base américaine Udeid, située au Qatar. Le 13 février dernier, les autorités iraniennes ont révélé vouloir construire une nouvelle base aérospatiale dans le sud-est du pays pour lancer des satellites. Un responsable iranien bien informé sur l'accord nucléaire 4+1 a révélé les véritables causes de l'échec des pourparlers de Vienne. Ces négociations ont de nouveau été suspendues après des déclarations plutôt optimistes, laissant entendre que la conclusion de l'accord était imminente. Dans une interview accordée à la chaîne d'information libanaise Al-Mayadin, Mohammad Marandi a accusé l'Occident d'avoir expressément cherché à tromper l'Iran par des ajournements et des tergiversations, affirmant qu'il n'avait jamais voulu parvenir à un quelconque accord. Les pourparlers avec les États occidentaux n'étaient pas constructifs ni positifs, a-t-il déclaré. Les États occidentaux faisaient exprès de retarder et d'ajourner leurs décisions pour arnaquer l'Iran, a-t-il affirmé. Les États-Unis refusent de lever toutes les sanctions et c'est ce que l'Iran exigeait depuis le début, a-t-il confirmé. Soulignant que l'actuel président iranien Ebrahim Raisi reste déterminé sur les revendications iraniennes, autant que son prédécesseur Hassan Rouhani. D'après M. Marandi, l'Iran ne demande rien d'autre dans les négociations que ce qui avait été conclu auparavant en 2015 avant que les États-Unis ne se retirent unilatéralement en 2018 sous le mandat de l'ex-président Donald Trump. Selon des sources proches de ce dossier, Washington refuse entre autres de lever l'embargo imposé depuis 2018 sur le corps des gardiens de la révolution Segeri. L'expert iranien Amir Moussavi rapporte qu'il exige et aussi que les Iraniens renoncent à poursuivre les assassins du chef de la force Al-Rawz, le général martyr Qassem Soleimani, dont le meurtre, le 3 janvier 2020, a été revendiqué par le président Donald Trump en personne. M. Marandi a également commenté les récentes garanties réclamées par Moscou que les nouvelles sanctions qui lui sont imposées sur fond du conflit en Ukraine n'affectent pas ses échanges économiques et ses relations avec Téhéran, expliquant que cette demande s'inscrit dans le cadre des problèmes survenus entre Moscou et Washington et qu'elle est essentiellement adressée aux Américains. Les garanties exigées par la Russie sont réclamées aux États-Unis et à l'Occident et non pas à l'Iran, estimant qu'il est normal que les Russes exigent cette garantie. Selon lui, même en cas d'accord, il ne faut pas s'attendre à des investissements occidentaux en Iran. L'obstacle principal est le refus américain de lever toutes les sanctions, a-t-il soutenu. Selon lui, les Occidentaux veulent imputer aux Russes la cause de l'échec des pourparlers pour camoufler qui ne veulent pas lever les sanctions ni donner des garanties. À noter que l'Iran réclame comme garantie que l'accord conclu ne puisse pas être enrayé au cas de changement d'administration. Mais M. Marandi a dit toutefois constater que les Occidentaux affichent être plus pressés de réaliser l'accord avec l'Iran depuis la crise de l'Ukraine. Le vendredi, des sources iraniennes proches du dossier des pourparlers sur le nucléaire iranien ont répondu aux allégations du commissaire des affaires étrangères étrangères de l'Union européenne, Joseph Borrell, selon lequel le texte final de l'accord est déjà prêt, assurant qu'il ne l'est pas. Les États-Unis doivent admettre les conditions de l'Iran telles qu'elles, sinon pas de retour à l'accord. Pas question de renoncer aux droits, insiste M. Moussavi sur sa page Twitter, condamnant ce qu'il considère être la manipulation des Occidentaux. Les autorités saoudiennes ont exécuté ce samedi 12 mars 80 détenus accusés de présumés actes terroristes à l'intérieur du royaume. Plus de la moitié des victimes sont de Saoudiens originaires de la région chiite d'Al-Katif à l'est du royaume. Ils avaient participé à un mouvement de protestation pacifique pour réclamer des réformes politiques dans son royaume archaïque. Le régime saoudien a commis un massacre à l'encontre de dizaines de détenus, dont 41 détenus jeunes qui avaient participé au mouvement de protestation à Al-Aqsa et à Al-Katif sur fond d'accusations taxées injustement d'affaires de terrorisme, a condamné le mouvement de l'opposition péninsule arabe. Le régime saoudien ne cessera de choquer la conscience humaine, locale et mondiale, en perpétrant davantage de crimes contre les gens innocents, a condamné ce mouvement dans un communiqué, accusant Riyad d'avoir exploité les circonstances actuelles pendant que le monde entier est entièrement préoccupé par ce qui se passe en Ukraine et l'atmosphère de tension entre la Russie et l'Occident. Selon l'agence officielle saoudienne, 7 Yéménitiens syriens font partie des 80 personnes exécutées. Trois des Yéménites ont été condamnés d'avoir formé un groupe terroriste affilié à l'organisation Ansarullah, a indiqué le ministère saoudien de l'Intérieur, qui a indiqué que ceux qui ont été exécutés sont condamnés pour avoir adhéré à une doctrine hérétique et à des croyances aux loyautés externes. Ce groupe de jeunes n'ont rien fait d'autre que d'exercer leur droit légitime d'exprimer leur opinion et de réclamer leur droit légitime et juste vivre en toute dignité. Égalité et liberté, a aussi écrit le mouvement de l'opposition en péninsule arabe, selon lequel Mohammed bin Salman n'est qu'un meurtrier sadique qui trouve du plaisir à tuer les gens innocents et à faire souffrir leurs proches. Parmi les victimes figurent un jeune de 19 ans qui avait 14 ans lorsqu'il a été arrêté en 2017. Abdullah Al-Hubaiti avait été accusé d'avoir participé au vol d'une joaillerie et à l'assassinat d'un policier dans la ville de Daba, dans la région de Tabouk, au nord du royaume wahhabite. Après sa condamnation à la peine capitale, son verdict a été éliminé avant d'être renouvelé au début de ce mois-ci. Selon l'organisation Reprieve Hostile à la peine de mort, Abdullah, qui a toujours plaidé non coupable, a fourni des preuves avec des vidéos à l'appui, confirmant qu'il se trouvait à 200 km de la scène du crime. Il avait 14 ans lors de son arrestation. Il a été torturé pour signer un faux aveu sur un crime qu'il est impossible qu'il ait pu commettre, a déploré l'organisation. Le samedi, il a mené une grève de la faim et a été hospitalisé après son effondrement. Les 6 autres accusés dans cette affaire ont assuré que leurs aveux leur avaient été extorqués sous la torture. Le 11 janvier dernier, le tribunal de cassation saoudien avait soutenu la peine de mort de deux Bahreïnis. En juin 2021, les autorités saoudiennes ont décapité un jeune détenu, les mains menottées, pour s'être opposé au régime saoudien. À l'approche de la fête de fin d'année iranienne Nowruz, Poutine fait un grand ménage dans la maison de ses parents ukrainiens, expulsant les parasites sionistes nazifiés et la Pologne et la Hongrie, deux pays qui restent attachés aux valeurs chrétiennes, subissent la véhémence du sionisme sous le couvert de l'ONU. Le vote des sanctions économiques à l'encontre de la Hongrie et de la Pologne en pleine guerre en Ukraine, alors que ces deux pays ont accueilli 1,6 million de réfugiés. Des réfugiés qui avaient fui la guerre en Ukraine déclenchée par le sionisme. Le nombre d'Ukrainiens contraints de quitter leur pays est passé à 1,5 million et la rhétorique du Kremlin s'est intensifiée, le président russe Vladimir Poutine avertissant que l'État ukrainien est en danger. Il a comparé les sanctions occidentales contre la Russie à une déclaration de guerre. La Hongrie et la Pologne pourraient être privées des fonds de l'UE si Bruxelles déploie une nouvelle et puissante arme de sanctions soutenue par le courant dominant de la gauche européenne. Les législateurs européens ont insisté sur le fait que l'argent des contribuables doit être protégé contre ceux qui sapent les valeurs de l'UE. En janvier 2021, l'UE a introduit le mécanisme de conditionnalité de l'état de droit qui constitue un outil permettant à la Commission de refuser de débloquer des fonds européens à des gouvernements nationaux qu'ils considèrent comme enfreignant l'état de droit commun. En substance, cela signifie que si des pays conservateurs s'opposent au courant européen libéral sur la manière de gouverner, par exemple, l'adoption par la Hongrie d'une législation interdisant l'enseignement de la propagande de LGBT dans les écoles ou rejetant l'immigration de masse, le pays fautif pourrait se voir refuser l'accès aux fonds européens auxquels il a droit. La Hongrie et la Pologne, sous leurs gouvernements conservateurs respectifs, ont contesté le règlement devant la Cour de justice des communautés européennes, CJCE, appel qui a été rejeté par la plus haute juridiction de l'UE le 16 février. Le vote du Parlement signifie que l'Union européenne a détourné son attention et ses ressources pour sanctionner de ses propres membres à un moment où le continent européen est en plein désarroi et où la Russie cherche à montrer ses muscles et à affirmer sa domination en Ukraine. Cela signifie également que les gouvernements hongrois et polonais doivent consacrer leur propre temps et leurs ressources à faire face à l'hostilité de Bruxelles, alors que les deux pays cherchent à contenir la crise humanitaire qui se déroule à la frontière extérieure de l'Union européenne et à accueillir des centaines de milliers de réfugiés. L'intimidation permanente de la Russie avec de nouvelles sanctions d'enfer a depuis longtemps cessé d'exciter l'opinion publique russe. Je me souviens qu'en 2014, comme d'autres de la première liste soumise aux sanctions américaines, j'ai été interviewé et nous avons tous assuré aux journalistes que nous étions fiers d'une telle reconnaissance de nos services à la Russie. Depuis lors, le nombre de personnes physiques et morales sanctionnées par les États-Unis et ses satellites a augmenté à plusieurs reprises et n'a pas eu d'impact notable sur notre pays. Au contraire, les mesures de rétorsion introduites par notre gouvernement en termes de restriction des importations alimentaires en provenance de ces pays ont contribué de manière significative à la croissance de la production agricole nationale qui a presque complètement remplacé l'importation de volailles et de viande. C'est ce qu'on peut lire sur le site de Réseau International et voici un extrait de l'article que je vais lire pour vous, chers amis fidèles. D'Ipresse, souhaitez-moi une bonne lecture. S'il vous plaît. Les entreprises des secteurs de la défense et de l'énergie ont appris à contourner ces sanctions en refusant d'utiliser le dollar. Et par la même occasion, les banques américaines, au profit des monnaies nationales et des banques des pays partenaires. La prochaine étape est le développement d'instruments de monnaie numérique qui peuvent être utilisés sans recourir aux services des banques, qui craignent de tomber sous le coup des sanctions. Le peuple russe suit avec un le retour au pays des capitaux exportés par les oligarques et eux-mêmes qui ont peur d'être confisqués et arrêtés dans les pays de l'OTAN. Les sanctions américaines n'ont pas tant touché la Russie que les pays tiers, qui ont subi les pressions de Washington. D'abord, nos voisins européens qui ont écourté la plupart des projets de coopération dans le domaine scientifique, technique et énergétique. Elles ont également affecté les banques commerciales chinoises opérant dans la zone dollar qui ont préféré cesser de servir les clients russes. Le chiffre d'affaires commercial de la Russie avec l'UE et les États-Unis a naturellement diminué, tandis qu'avec la Chine, il a augmenté. Au cours de la période 2014-2020, en termes monétaires, le chiffre d'affaires commercial de la Russie avec la Chine a augmenté de 17,8%, passant de 88,4 milliards de dollars à 104,1 milliards de dollars. La part des pays de l'APEC, Conférence économique et Asie-Pacifique, et de l'ESC, Organisation de coopération de Shanghai, dans le chiffre d'affaires du commerce extérieur de l'UEE, Union économique eurasienne, est passée de 29 au cours de cette période, 6% à 36,4%, de la 16,3% à 24,1% respectivement. La part de l'UE dans le chiffre d'affaires du commerce extérieur de l'UEE, au contraire, est passée de 46,2% en 2015 à 36,7% en 2020. Le chiffre d'affaires du commerce avec les États-Unis au cours de la période sous revue a diminué de 18,1%, passant de 29,1 milliards de dollars à 23,9 milliards de dollars. En fait, à l'aide de sanctions, les États-Unis tentent d'évincer les produits russes des marchés de leurs satellites, remplaçant les leurs. Cela s'est manifesté le plus clairement sur le marché européen du gaz naturel, où la part des États-Unis a fortement augmenté, bien qu'il n'ait pas encore été possible de supplanter la Russie sur le marché européen du gaz naturel. Le principal résultat des sanctions américano-européennes a été un changement de la structure géographique des relations économiques extérieures russes en faveur de la Chine. L'expansion de cette coopération compense pleinement la réduction des relations commerciales et économiques avec l'UE. Les consommateurs européens doivent se tourner vers des vecteurs énergétiques américains plus chers et leurs producteurs perdre tout simplement le marché russe. Les pertes totales de l'UE dues aux sanctions anti-russes sont estimées à 250 milliards de dollars. Un autre résultat important des sanctions américaines a été la chute de la part du dollar dans les règlements internationaux. Pour la Russie, comme pour les autres pays soumis aux sanctions américaines, le dollar est devenu une monnaie toxique. En traçant toutes les transactions en dollars, les autorités punitives américaines peuvent bloquer les paiements gelés ou même confisquer les actifs à tout moment. Pendant 8 ans après l'imposition des sanctions, la part du dollar dans les règlements internationaux a diminué de 13,5 points de pourcentage, de 60,2% en 2014 à 46,7% en 2020. Les sanctions sont devenues une puissante incitation au passage au règlement en monnaie nationale et au développement des systèmes de paiement nationaux. Ainsi, dans le commerce mutuel des États de l'UEE, la part du dollar a diminué de plus de 6 points de pourcentage, de 26,3% en 2014 à 20,0% fin 2020. Je me souviens qu'il y a 10 ans, lors de l'examen des risques pour le système bancaire russe au sein du Conseil bancaire national, j'ai demandé au chef de la banque centrale de l'époque le risque de déconnecter les banques russes du système international de transmission bancaire SWIFT est-il envisagé, comme l'ont fait nos partenaires occidentaux vis-à-vis de l'Iran. À quoi j'ai reçu la réponse: nous ne pouvons pas envisager le risque qu'une bombe atomique frappe la banque de Russie. Cependant, la direction de la banque centrale a pris des mesures. Aujourd'hui, la Russie a son propre système de transmission de messages électroniques entre banques. Le système de transmission de messages financiers SPFS de la banque de Russie, ainsi que son propre système de paiement pour les cartes bancaires MIR, qui est interfacé avec le système Chinese Union Pay, et peut être utilisé pour les paiements virements transfrontaliers. Les deux sont ouverts aux partenaires internationaux. La désactivation de SWIFT n'est plus considérée comme une menace à grande échelle, elle profitera au développement de nos systèmes de paiement et d'informations financières. Cependant, il serait puéril de supposer que lorsque nous sommes battus, nous devenons plus forts, bien que nous ayons effectivement renforcé notre souveraineté nationale dans le domaine économique sous l'influence des sanctions américaines, mais pas au point que nous n'y prêtions pas du tout attention. Les dommages causés par les sanctions sont bien sûr là et ils sont considérablement renforcés par la politique passive des autorités monétaires. Depuis 2014, lorsque, avec la connivence du régulateur, les spéculateurs monétaires ont fait baisser le taux de change du rouble en manipulant le marché, ce dernier a été utilisé par les sanctions comme un fusible à toute épreuve de la stabilité macroéconomique. Dans le même temps, c'est en 2014, à la veille des sanctions américaines, déjà annoncé que la Banque de Russie est passée à un régime de change flottant. Et ce n'est qu'à après cela que les États-Unis ont introduit leurs sanctions, étant certain que les spéculateurs en manipuleraient l'effet négatif.